rime à quoi ? Ça rime à quoi spécial cinéma en compagnie d'Olivier Jahan pour les Châteaux de Sable. Vos titres ont souvent un côté sur la pointe des pieds. Dès le premier en 2000, Faites comme si je n'étais pas là, ou encore dans vos plus courts métrages comme Du bois pour l'hiver, tiré d'une nouvelle de Raymond Carver, et même dans La nouvelle Ève de Catherine Corsini, où vous faisiez l'acteur, Olivier Jahan, vous êtes l'homme timide, alors toujours discret.
Ouais, ben voilà. Non, mais c'est vrai que le titre de ce premier long métrage m'a longtemps poursuivi et a continué à le faire jusqu'à ce film, on va dire. J'ai eu une vie un peu multiple, toujours liée au cinéma. J'ai quand même passé plus de 15 ans à travailler dans des festivals. Et avoir des fonctions importantes, tout ça par passion du cinéma. Moi, mon rêve quand j'étais gamin, c'était de faire des films. Et puis j'ai été détourné de manière très joviale par le directeur de la quinzaine des réalisateurs de l'époque, qui s'appelait Pierre-Henri Deloup, qui était le fondateur de cette manifestation et qui m'a embringué quand j'avais 18 ans dans son sillage, alors que j'étais un petit assistant qui ramait, un petit assistant stagiaire qui parcourait les plateaux en espérant faire un film puis l'autre. Et je me suis retrouvé très rapidement à la fois au cœur de ma passion pour le cinéma, c'est-à-dire de se manger des films à peu près des semaines entières du matin au soir et d'émettre un jugement assez tôt. Donc ça a été un cadeau et je pense que j'étais assez reconnu dans mes fonctions à ce moment-là, que les gens m'appréciaient et que curieusement, quand ma volonté absolue et farouche de faire des films a commencé à se dessiner, ça a forcément été moins simple. Donc mon côté un peu sur la scène à présenter les films des autres, quand il s'agit de ces films à soi, c'est moins simple.
Il faut dire aussi, Olivier Jahan, qu'à chaque fois, il y a une grande part d'intimité dans vos images, dans vos histoires. Dans Les Châteaux de Sable, qui rassemble Éléonore, jouée par Emma Decaune, et Samuel, son ancien fiancé, alias Yannick Régnier, la maison en Bretagne dans laquelle il se retrouve le temps d'un week-end pour la mettre en vente, car le père d'Éléonore, incarné par Alain Chamfort, très, très beau fantôme, est mort. Et cette maison-là, je crois, est celle de votre propre père.
Absolument. Oui, c'était un peu si on peut dire que c'est probablement le film le plus intime, en tout cas le plus personnel que j'ai fait jusqu'à présent, même si tous les films et je ne suis pas le seul à être dans ce cas racontent forcément des bouts de soi, quoi. Mais celui-là en particulier à la fois était fait dans l'urgence d'un film qui s'est fait sans beaucoup d'argent, de manière assez rapide, de manière assez impulsive. Même l'écriture a été rapide. Le financement a été rapide parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on n'a pas attendu beaucoup pour le faire. Le fait de se réapproprier la maison de son père à travers un tournage, à travers des gens qui vont incarner des personnages qui peuplent cette maison, à travers une équipe qui vient pendant 2 mois. On n'a pas tourné pendant 2 mois, mais le temps de préparation, enfin, tous ces moments-là, pendant 2 mois et demi, il y a une vie folle dans cette maison.
Chez vous, en somme.
C'était hyper émouvant. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que quand j'ai tourné, il y avait des traces. Ce que mon père avait laissé dans cette maison, des objets que j'avais pas enlevés, le décorateur y avait pas touché, etc. Et elles étaient là dès le début. Et les gens de l'équipe ou les acteurs me disaient « ça doit être bizarre quand même » et tout. Et moi, je pensais qu'au contraire, c'était assez libérateur. C'était assez libérateur parce que cette maison, voilà, je l'ai bien connue du temps où mon père y vivait. Quand il est mort, il y a eu l'envie, parce que je ne suis pas seul dans cette famille, de la vendre, notamment.
Comme dans le film.
Comme dans le film, absolument.
Elle est fille unique, Éléonore.
Voilà, absolument. Elle est fille unique, ce qui n'est pas mon cas. Pour le coup, Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a été donc en fonte pendant les 2 ans qui ont précédé le tournage. Et que rien ne s'est concrétisé, que l'agent immobilier qui s'occupait de cette maison n'a pas réussi à la vendre, et que du coup on y a tourné, et depuis j'ai décidé de la garder.
Claire Andrieux est une femme particulièrement coquette. Elle se maquille toujours de la même façon. Un trait d'eyeliner, du fard à joues et un petit coup de blush. Claire Andrieux n'a pas d'enfant. Elle pourrait encore en avoir, elle a quoi, 35 ans. Elle y pense parfois.
On m'assume à tout ça un jour.
Claire Andrieux aime la Bretagne viscéralement. Et elle aime son métier. Elle aime vendre des maisons, en découvrir, les faire visiter. La plupart du temps, elle aime les gens qu'elle rencontre. Elle aime les faire parler. La vie des gens l'intéresse. Parfois plus que la sienne. Claire Andrieux vote à gauche depuis toujours. Socialisme breton. Elle hait l'injustice et la misère, elle peut pleurer devant le journal de 20h, d'ailleurs elle pleure souvent. Claire Andrieux est heureuse, privilégiée. C'est ce qu'elle se répète chaque matin à voix haute devant sa glace.
Je suis heureuse, privilégiée, j'ai beaucoup de chance.
Claire Andrieux vit seule. Parfois cette solitude lui pèse, parfois cette solitude lui plaît. Ça dépend des jours, du temps qu'il fait, du film qu'elle a vu à la télévision.
Le couple. Ils éteignent la lampe et son globe blanc rayonne un instant, avant de se dissoudre comme un comprimé dans un verre d'obscurité. Imovane. Cétrizine, prednisolone, pantoprazole, Xanax, Stilnox.
C'est Samuel dans Les Châteaux de Sable, Olivier Jahan, cet ancien amoureux d'Éléonore, si proche, qui découvre ce poème de Thomas Tranströmer, Le couple, traduit par Jacques Coutin dans son sac à main alors qu'il fouille avant d'y découvrir les médicaments, et la voix que l'on entend auparavant, et qui contraste dans le montage d'ailleurs avec le silence de la cuisine où Samuel tombe sur ce poème. Décrivez Claire Andrieux, l'agent immobilier, célibataire et très seul, joué très joliment par Jeanne Rosa. Pourquoi ces mots-là de Thomas Tranströmer, venu de Suède, jusqu'à vous ?
Parce que c'est un beau poème et que je pense que le film a été fait avec l'envie de mettre des choses qu'on aimait dans le film. Et ça concerne aussi mon co-scénariste Diastem, qui est un homme lui aussi très curieux, très avide de choses qu'il touche, que ce soit en termes de littérature ou... de photos, de musique, tout ça, ça a été une espèce de ping-pong assez troublant entre lui et moi. Je pense qu'on avait posé dès le début les bases d'un scénario qui n'était pas un scénario formaté, typique, ennuyeux, comme peuvent l'être certains scénarios à lire, hein, c'est-à-dire avec juste des descriptions d'action et des dialogues. Nous, on avait, dès le début, c'est lui qui m'a un peu impulsé cette écriture-là, puisqu'il a écrit les 5 premières pages du texte, et qu'après, on s'est un peu réparti les tâches, mais on écrivait chacun dans notre coin, et puis on se confrontait l'un à l'autre. Dès le début, il avait posé dans sa proposition, il fallait encore qu'elle me séduise, et évidemment elle m'a séduite, des photos, des choses qui n'étaient pas dans un ordre logique et rationnel de scénario tel qu'on peut le lire. Et ce qui a déconcerté pas mal de gens, bien que la proposition les séduisait. Ils avaient tous un petit peu cette... de pourquoi, de comment, comment j'allais faire ça, etc. Et au milieu de ça, s'est retrouvé notamment le poème de Tranströmer, qui est un très beau texte et très à la fois ce que j'aime dans ce qu'il écrit, c'est ce côté minéral mystérieux de ce texte. Ce texte raconte plein de choses en quelques mots et m'a beaucoup touché. Et après, on en a joué de manière très posée, parce qu'on pouvait aussi laisser Yannick le lire, ce qui était dans la proposition de scénario initial le cas. Sauf que dans le rythme du film, ça soudain prenait une importance un peu trop pesante, on va dire, à ce moment-là du film, et que après on a trouvé la bonne place, je pense, pour le lire intégralement.
Pour qu'il revienne.
Absolument.
Le temps qu'il fasse son chemin dans sa tête à lui.
Parce qu'il y avait l'idée, et je l'ai filmé comme ça, en tout cas, dans ce petit laboratoire qui était ce tournage, où on a essayé beaucoup de choses, et on s'est beaucoup amusé avec ça. Voilà, on était dans la cuisine, là où Samuel découvre le bouquin, et puis soudain, il y avait un éclairage de doux, un peu comme au théâtre, et Samuel lisait le texte face caméra.
Et dans cette édition des œuvres complètes de Transtromer, telle que parue aux éditions Le Castor Astral dans la traduction de Jacques Coutin, et c'est assez drôle, Olivier Jahan, parce que dans un sac à main de femme, là c'est l'édition première, la grosse, pas du tout le livre en poche, enfin c'est très singulier cette présence-là.
Oui, oui, bon, ça, on va pas revenir sur ces petites choses-là, peut-être.
Mais c'est énorme, c'est beau dans le film. Oui, c'est aussi ce qui fait que le spectateur, il prend garde et le regarde, ce livre-là. Il est gros, il prend de la place.
Bien sûr, oui, oui, bah, c'est aussi pour ça qu'il le voit et que soudain, cette espèce d'objet, effectivement, qui est assez pesant, et d'ailleurs tous les livres qui sont un peu référencés dans le film sont des objets, il le repère, effectivement. Après, est-ce que c'est particulièrement pratique ou pas, je ne me suis pas réellement posé la question, et puis j'aimais bien que le bouquin soit un peu un gros bouquin, et pas un poème sur un iPad.
Ils éteignent la lampe, et son globe blanc rayonne un instant, avant de se dissoudre comme un comprimé dans un verre d'obscurité. Puis il monte. Les murs de l'hôtel jaillissent dans le ciel de la nuit. Les gestes de l'amour ont molli. Ils dorment. Mais leurs pensées les plus intimes se rejoignent. Comme deux couleurs se confondent sur le papier mouillé d'une gouache d'écolier. Tout est noir et paisible. Mais la ville semble s'être rapprochée cette nuit. Toute fenêtre éteinte. Les maisons sont venues, elles sont là, en attente compacte. Une foule de gens au visage impassible.
Le voilà, Olivier Jahan, le poème de Thomas Transtromer en entier dans les châteaux de sable. Et soudain, comme le père d'Éléonore qui réapparaît dans la maison ou sur la plage, ce poème-là est plein de fantômes.
Ouais.
Surtout lorsque l'on sait que Thomas Transtromer est mort au tout début du printemps, donc juste
absolument
quelques semaines avant la sortie du
même
film.
Même pas, ouais. Ouais. J'étais très troublé de découvrir ça. Effectivement, il est mort sans doute une semaine avant la sortie du film.
Le 26 mars.
Voilà. Et c'est beau de l'écouter, même sans les images, comme ça. Parce que je trouve que Yannick est un comédien merveilleux et qu'il a pris un vrai plaisir à lire ce texte, comme un vrai plaisir à participer à toutes les propositions que je lui faisais, qui n'étaient pas forcément aussi simples à jouer que ça. C'est un très 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 beau poème, et j'y étais vraiment sensible. Je pense qu'en plus, il est suffisamment mystérieux pour pas être totalement explicite, et ça c'est bien aussi, et c'est ce que j'aime bien... Voilà, dans l'œuvre que j'ai découverte de Transtromer, c'est ce côté, il y a toujours un côté un peu oppressant, des foules, des visages, etc., etc. Enfin, il y a une espèce de travail de confrontation entre la nature et soudain la ville, les ombres, les foules, c'est assez étonnant.
Ja, i det ögonblick som en poet publicerar något så får han ju den automatiskt den missionen att han får läsare.
À partir du moment où un poète est publié, il est évident qu'il ne peut pas échapper à la mission. Et la première chose qu'il est, c'est évidemment des lecteurs. Mais ce que moi je voudrais, c'est que le lecteur vive sa vie d'une manière plus intense. Telle est ma mission.
Oui, je crois que dikten a un stor uppgift i vårt moderna och alltför organiserade samhälle. Jag talar ju om Sverige nu, men jag tror att det stämmer på hela Västeuropa. Och det stämmer ju framförallt i länder som har en mycket hård styrning. Som det väl länge var i Östeuropa och fortfarande är i en del länder, så har dikten en speciell mission att...
Je pense que la mission, et là je voudrais bien entendu parler avant tout de la Suède et de nos pays occidentaux, mais pas seulement des pays occidentaux. Je pense à un certain nombre de pays où la liberté ne peut être pas aussi représentée. Je pense que pour un lecteur, lire un poème, c'est le ressentir tout d'abord soi-même et arriver à... un langage qui est un langage intérieur, qui vient de l'intérieur et qui ne vient pas d'une puissance qui lui imposerait ce langage. Donc, lire un poème, c'est l'écrire, en fait, un peu soi-même aussi.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Thomas Tranströmer se confie au micro d'André Velter, en compagnie de Jacques Coutin, son traducteur. C'était en 1989 sur France Culture, l'une des dernières fois où l'on entendait la voix de Tranströmer, puisqu'il aura vécu en partie aphasique et hémiplégique durant le dernier quart de siècle de sa vie, jouant du piano de la main gauche et se faisant comprendre grâce à sa femme. Et là encore, c'est le couple. Ah, pile le poème magnifique. Que vous auriez choisi, Olivier Jahan.
C'est magnifique, ça. La vie de cet homme, la fin de vie de cet homme est absolument... Enfin, c'est très beau, c'est Diastem qui m'avait raconté cette histoire. J'avais été très très troublé, effectivement, parce que je trouve ça magnifique, quoi. Et puis, il y a certains compositeurs qui ont écrit des partitions pour lui, spécifiquement pour la main gauche et tout. C'est magnifique, quoi.
Et cette mission-là du poème, Intensifier la vie, ça marche aussi au cœur de vos films. Choisir de glisser ce poème-là de Tranströmer dans vos châteaux de sable, Olivier Jahan. Ne pas le couper au montage, ce qui aurait pu arriver. Le placer juste avant les soucis de la fosse septique et du prix de la maison qu'il faudra abaisser pour la vente. C'est donner plus de sens et de force aussi à ce que vous voulez raconter.
Il y a des éléments qui ont trouvé leur place naturellement, comme je vous ai expliqué. Voilà, il y a une petite démarche autour du poème parce que il arrivait peut-être trop tôt dans le récit et qui me paraissait bien placé là où on a fini par le poser.
Et de nuit.
Absolument. Et de nuit, et par rapport à ce que l'évolution de ce duo, de ce couple infernal. Le principe de l'écriture était aussi de catapulter, d'entrechoquer. Des éléments qui sont pas naturellement faits pour, pour se croiser, on va dire. Je pense que tout le film est un peu comme ça. Et c'était en tout cas une réelle envie de ma part, et elle s'est dessinée dès l'écriture avec Diastème. On a vraiment décrété que on n'allait pas garder la même tonalité du début jusqu'à la fin du film. Et on avait envie, et je pense que ce qui séduit les spectateurs que j'ai croisés, parce que j'ai fait beaucoup de débats autour du film, c'est ça. C'est ce télescopage d'éléments qui, naturellement, n'ont rien à voir les uns avec les autres, entre des moments de burlesque un peu... qui sont posés là, qui sont revendiqués comme burlesques, des touches d'humour, de la noirceur, de la mélancolie.
C'est la vérité de la vie, en fait.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que, de toute façon, le film tourne autour, sans être, je l'espère, pesant, autour du thème du deuil et de la reconstruction aussi. Voilà, il fallait pas que... que ce soit trop étouffant, on va dire. Et je pense qu'on a tous vécu ces moments-là un peu étranges où on vient de perdre quelqu'un auquel on tient, quelqu'un de cher, que ce soit quelqu'un de sa famille, un amour, quelque chose, et qu'on est dans des réactions totalement contradictoires. C'est ce qu'on essaie d'analyser à travers ce film. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'hystérie aux larmes, de la douleur à la mélancolie, du fou rire au trémolo dans la voix.
Quelque part, il y a ce texto que Samuel a écrit à Éléonore alors qu'il venait de se séparer parce qu'il avait eu une aventure avec un chanteur de rock. Ça disait « Je t'aime indéfectiblement ». Preuve que les textos n'appauvrissent pas la langue, pas toujours en tout cas, ça dépend comment on veut en user. Cet adverbe-là, indéfectiblement, qui ne cesse d'être, qui ne cesse de durer, c'est une déclaration d'amour superbe.
Oui, oui, mais voilà, ça, c'est des mots qui sont posés là au moment où il faut, je crois.
Et qu'on n'a lu nulle part.
Indéfectiblement, c'est un moment où, quand on a cherché un titre de film, je me suis dit, bah, pourquoi on ne l'appellerait pas comme ça? Je pense que je n'aurais pas eu l'aval de mes distributeurs, mais j'adore ce mot. Il est très beau, il est très résonnant et il est très fort. Il y a des mots parfois où on se dit que on n'est pas loin de quelque chose, mais là, ce mot-là, pile poil là. Exactement.
Après, je t'aime que l'on dit trop.
Voilà. Ouais. Indéfectiblement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, effectivement. Oui, il y a des mots, on sait ce qu'ils signifient, à la fois, c'est un peu vague. Ce mot-là, non. Ce mot-là, il est précis.
C'est une flèche.
Ouais, c'est une flèche, absolument.
Il y a aussi beaucoup d'histoires de non-dits, là encore avec les textos. À un moment, Samuel va remplacer un « je t'aime » par « je t'embrasse » pour être plus juste avec sa compagne du moment, pour ne pas trop mentir. Il y a aussi ce dernier texto d'Éléonore à Claire. Alors qu'ils rentrent en voiture, Samuel et Éléonore, et qu'elle veut remercier cette agent immobilière avec laquelle ils ont vécu des choses assez fortes, et elle va lui faire un très beau texto, et finalement elle va se raviser, et elle mettra juste « merci beaucoup », enfin une chose assez neutre, qui va fusiller celle qui attendait aussi beaucoup de l'autre côté. Donc les mots chez vous, Olivier Jahan, sont infiniment essentiels dans vos films.
Bah, les mots, c'est important, non? Après, on les utilise beaucoup pour rien dire, mais dans un film, on essaie de faire passer des choses, on essaie de raconter, et parfois, quitte à être un peu plus synthétique qu'on pourrait l'être dans la vie, mais... En ce qui concerne, par exemple, le dernier texto, effectivement, je pense qu'elle essaie, elle veut, elle cherche des mots, et puis le mot le plus simple, je l'interprète pas forcément comme une attente de la part de Claire.
Ce moment-là.
Ouais, mais je pense que ce moment-là, ce merci-là, il est très important pour elle. Et s'il y avait des mots autour, pas plus qu'il ne l'est là. Et que ça la renvoie simplement à... Et c'est ça que j'aime dans ce personnage, au fait qu'elle ait côtoyé pendant 2 jours des gens qu'elle a trouvé passionnants, qu'elle a en plus fait avancer d'une manière assez culottée, on va dire, et que soudain elle se retrouve
dans son quotidien, devant sa glace, à dire « je suis heureuse ».
Donc le mot « merci », c'est un mot important aussi. En cherchant bien, en essayant de mettre peut-être d'autres mots qu'on ne voit pas effectivement dans le film, peut-être la déclaration la plus simple, c'est « merci ».
Excusez-moi, je voulais pas vous déranger, je m'appelle Maëlle, j'étais une amie de votre père.
Je sais qui vous êtes.
Je suis venue vous rendre les clés. Cette maison a été très importante pour moi, vous savez.
Non, je sais pas.
Votre père vous a jamais parlé de moi, je sais. Le plus dur est de ne pas avoir été à son enterrement. J'ai trouvé ça tellement injuste.
Entrez.
En plus, je sais qu'il aurait été heureux que nous nous connaissions. Il avait envie qu'on se rencontre. Il était tellement fier de vous. Mais il pensait que c'était pas le moment, pas encore. Il voulait pas à cause de votre mère et... Je pensais que vous ne comprendriez pas que vous alliez lui en vouloir. Puis il est tombé malade.
Vous l'avez rencontré quand?
Il y a 8 ans, dans ma librairie, il avait commandé un livre, celui d'un prix Nobel de littérature chinois qui vit depuis plusieurs années en France, Gao Xinyan. Je vous assure, c'est pas très courant, intrigué. Le livre s'appelait « L'errance de l'oiseau », un recueil de poésie.
Maëlle, c'est Christine Brucher, avec un tréma sur le U, comme chez Thomas Tranströmer, non, Olivier Jahan?
Mais oui.
Que de Nobel de littérature dans vos châteaux de sable. Tranströmer, donc, en 2011, et puis là, Gao Xinyan, en 2000. que raconte ce recueil L'errance de l'oiseau. Et c'est d'autant plus beau que là, sans l'image, on entend les oiseaux derrière.
Oui, mais ça, c'est en plus, je pense qu'on ne les a pas rajoutés. C'est Diastème qu'il a rencontré, d'ailleurs, parce qu'il vient en France.
Ce livre-là a été écrit en français, même, je
absolument,
crois.
Absolument, absolument. Et c'est un objet. Hein,
il est gros, il est noir, et on voit qu'elle le prend sur l'étagère.
Voilà, là absolument. Encore. Et on le voit au début, pris par un champfort. Et on n'a pas l'impression que c'est un livre. Parfois, les gens l'interprètent différemment. C'est assez
parce rigolo. Que c'est un emboîtage noir.
Absolument. Notamment qui pourrait contenir des photos, des choses comme ça. Mais effectivement, je suis moins familier avec son œuvre. Ça, c'est nos références à lui, à moi, qui se sont, comme je vous l'ai expliqué, entrechoqués à travers l'écriture de ce film. Et c'était des très jolis moments, parce qu'à chaque fois, c'était des découvertes. Voilà, soudain... l'un amenait l'autre vers ça, et l'autre réciproquement.
Dans Dubois pour l'hiver, votre moyen métrage tiré de Carver, le personnage principal tient un cahier d'écolier, là encore l'écriture, où il tente d'écrire une lettre à la femme qu'il aime et qu'il a quittée parce qu'il l'avait battue au tout début sous l'emprise de l'alcool. C'est très simple ce qu'il écrit, on sent qu'on est assez loin du Nobel de littérature, mais quand même ça dit « Ma chérie, je ne sais pas par où commencer, les mots se bousculent, je n'arrive pas à trouver les bons ». Pour vous, Olivier Jahan, ou que ce soit long métrage, moyen métrage, court métrage, le cinéma comme la poésie, c'est une histoire de mots.
Ouais, ça peut l'être. Ça peut l'être. C'est aussi une histoire d'image, mais il y a les mots d'abord qui sont couchés sur le papier et qu'on essaie de retranscrire. Hein. Pour le coup, Dubois pour l'hiver, qui est un film dont je suis assez fier parce que il y a eu peu de transpositions de Carver, en tout cas en France. J'ai vu pas mal de courts-métrages qui tournaient autour d'adaptations qui me semblaient un peu triviales, un peu manquées de grâce et tout ça. Là, ma grande fierté, c'est que j'ai envoyé le film à Tess Gallagher, la veuve de Carver, et qu'elle a trouvé ça super. Donc pour moi, c'était cadeau du ciel, quoi. J'étais très content d'avoir la validation de cette femme qui a accompagné Carver longtemps, qui a fait éditer d'ailleurs ses nouvelles, parce que c'est des nouvelles posthumes là aussi pour le coup, et dont celle-là qui n'a pas été éditée de son vivant, mais qui était une nouvelle qui me touchait infiniment. Et d'ailleurs, on peut retrouver quelques corrélations entre Dubois pour l'hiver et les Châteaux de Sable, en sens que ce soit Marc Barbet dans Dubois pour l'hiver ou Yannick dans les Châteaux de Sable, ils passent leur temps à faire des travaux manuels. Et ça, je pense que c'est une petite récurrence de la nouvelle de Carver que j'ai replacée sciemment dans les Châteaux de Sable. Et j'aimais bien l'idée que Samuel, pour lutter contre quelque chose qui s'en montait en lui à nouveau, se jette à corps perdu dans la réfection d'une terrasse. Et qu'il le fait de manière d'ailleurs un peu légère, on va dire.
Et qu'il faut revenir juste avant la pluie.
Oui, absolument.
Parce que c'est en Bretagne.
Parce que c'est en Bretagne et qu'il pleut de temps en temps. Bad day,
looking far away. Les Châteaux de Sable d'Olivier Jahan, coécrit avec Diastème, sont en ce moment sur les écrans avec Emma Decaune, Yannick Régnier, Jeanne Rosa, Alain Chamfort et Christine Bruchère. Les poèmes de Thomas Tranströmer sont publiés aux éditions Le Castor Astral, mais aussi en Poésie Gallimard, format de poche. Dans les deux cas, la traduction est signée Jacques Houtin. Sarima Kwa, Philippe Palares, Jean-Michel Bernot, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.